Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Prendre du recul afin de décrypter les comptes. À quoi bon, pourrait-on se dire, à quoi bon perdre son temps avec des histoires pour enfants dont la trame manichéenne et la morale semblent archi connues. C'est bien mal connaître ces contes dont la forêt obscure et profonde où se déroule toujours une partie de l'action cache bien des secrets. Déchiffrer l'essence cachée des contes, c'est ce que nous tentons de faire le docteur Dominique Desmichel et moi-même au cours de cette série. Pour cela, nous avons dégagé plusieurs thèmes et le premier qui nous occupe sur plusieurs émissions est celui de la mer et de Blanche-Neige.
La fillette était seule pendant la journée, les gentils nains la mirent en garde en disant « Méfie-toi de ta marâtre, elle saura bientôt que tu es ici, ne laisse entrer personne. » Quant à la reine, après qu'elle eut mangé les poumons et le foie, qu'elle pensait être ceux de Blanche-Neige, elle était persuadée qu'elle était de nouveau la plus belle et la première entre toutes. Elle s'approcha de son miroir et dit « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit alors « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais Blanche-Neige, par-delà les montagnes, chez les sept nains, est encore mille fois plus belle que vous. » La reine prit peur, car elle savait que le miroir ne mentait jamais, et elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était encore en vie. Elle se mit à réfléchir et à réfléchir encore pour savoir comment elle allait bien pouvoir la tuer, car tant qu'elle n'était pas la plus belle dans tout le pays, sa jalousie ne lui laissait pas de repos. Et quand elle eut enfin forgé son plan, elle se maquilla le visage et s'habilla comme une vieille marchande, se rendant absolument méconnaissable. Sous cette apparence, elle se rendit par-delà les montagnes, chez les sept nains, et frappa à la porte de leur maisonnette en appelant « Belle marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et lui cria « Bonjour ma bonne dame, qu'avez-vous à vendre ?»« De la bonne marchandise, de belles choses, des lacets de toutes les couleurs, » répondit-elle, en lui présentant un lacet qui était tressé de fils de soie multicolores. « Je peux bien laisser entrer cette brave femme, » se dit Blanche-Neige. Et elle lui ouvrit la porte et s'acheta le joli lacet. « Mon enfant, de quoi as-tu l'air ?» lui dit la vieille. « Viens, je vais te lacer ton corset bien comme il faut. » Blanche-Neige, qui ne se doutait de rien, se plaça devant elle et se laissa serrer son corset avec le lacet tout neuf. La vieille, quant à elle, lui serra bien vite son corset et le serra si fort que Blanche-Neige ne put plus respirer et qu'elle tomba comme morte. « Voilà, tu étais la plus belle, » dit la vieille en se dépêchant de quitter la maisonnette. Peu de temps après, le soir, les sept nains rentrèrent chez eux. Mais quelle ne fut pas leur frayeur en voyant leur chère Blanche-Neige gisant par terre et elle ne bougeait pas le moins du monde, comme si elle était morte. Ils la soulevèrent et voyant que son lacet était trop serré, ils le coupèrent. Elle se remit alors à respirer doucement et peu à peu, elle revint à la vie. Quand les nains entendirent ce qui s'était passé, ils lui dirent « Cette vieille marchande n'était autre que la reine impie, méfie-toi et ne laisse entrer personne en notre absence. » La méchante femme, cependant, quand elle fut de retour chez elle, alla se placer devant le miroir et lui demanda « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Et il lui répondit, comme d'habitude, « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais Blanche-Neige, par-delà les montagnes, chez les sept nains, est encore mille fois plus belle que vous. » Lorsqu'elle entendit ces mots, sa frayeur fut telle que tout son sang afflua vers son cœur, car elle avait bien compris que Blanche-Neige était revenue à la vie. « Mais maintenant, je vais inventer autre chose pour causer ta perte, » dit-elle. Et grâce à des pouvoirs de sorcellerie qu'elle possédait, elle fabriqua un peigne empoisonné. Elle se déguisa ensuite pour prendre l'apparence d'une autre vieille femme. Elle se rendit ainsi par-delà les montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte de leur maisonnette et cria « Bonne marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre. « Poursuivez donc votre chemin, car je n'ai le droit de laisser entrer personne. » Mais tu as tout de même le droit d'y jeter un coup d'œil, dit la vieille en sortant le peigne empoisonné et en le brandissant en l'air. Il plut alors tant à l'enfant qu'elle se laissa séduire et qu'elle lui ouvrit la porte. Quand le marché fut conclu, la vieille dit « Maintenant je vais te peigner bien comme il faut ». La pauvre Blanche-Neige ne se doutait de rien et laissa faire la vieille. Mais à peine celle-ci eut-elle glissé le peigne dans ses cheveux que le poison qu'il contenait se mit à agir et que la jeune fille perdit connaissance et tomba à terre. « À présent, c'en est fait de toi, prodige de beauté !» dit cette femme perfide avant de s'en aller. Fort heureusement, le soir approchait et les sept nains allaient rentrer à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige gisant à terre comme morte, ils soupçonnèrent immédiatement sa marâtre. Ils cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Et à peine l'eurent-ils retiré que Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui recommandèrent alors une nouvelle fois d'être sur ses gardes et de n'ouvrir la porte à personne. Chez elle, la reine se plaça devant son miroir et lui dit « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit alors, comme auparavant « Majesté, vous êtes la plus belle de chez nous, mais Blanche-Neige, par-delà les montagnes, chez les sept nains, est tout de même encore mille fois plus belle que vous. » Lorsqu'elle entendit le miroir parler ainsi, elle se mit à frémir et à trembler de colère. « Blanche-Neige mourra, quand bien même je devrais le payer de ma propre vie !» s'écria-t-elle. Elle se rendit ensuite dans une petite pièce secrète et isolée, où personne ne pouvait aller, et elle y fabriqua une pomme très très empoisonnée. D'apparence, la pomme était belle. Elle était blanche et rouge et bien ronde, si bien qu'en la voyant, on avait envie de la croquer, mais celui qui en mangeait un petit morceau ne pouvait qu'en mourir. Quand la pomme fut prête, elle se colora le visage et se déguisa en paysanne, et elle se rendit ainsi par-delà les montagnes, chez les sept nains. Elle frappa à la porte et Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer personne. Les sept nains me l'ont interdit. » « Peu m'importe, » répondit la paysanne, « j'arriverai bien à me débarrasser de mes pommes. Tiens, je vais t'en offrir une. »« Non, » répondit Blanche-Neige, « je n'ai le droit de rien accepter. »« As-tu peur qu'elle soit empoisonnée ?» demanda la vieille. « Regarde, je vais couper cette pomme en deux. Toi, tu mangeras le côté rouge, et moi, je mangerai le côté blanc. » Cependant, la pomme était si habilement faite que seul le côté rouge était empoisonné. Blanche-Neige dévorait des yeux cette belle pomme et voyant que la vieille en mangeait, elle ne put résister plus longtemps et passa la main à l'extérieur pour prendre la moitié empoisonnée. Mais à peine en eut-elle un morceau dans la bouche qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la contempla alors d'un air mauvais, puis elle se mit à rire à gorge déployée en disant « Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène, cette fois les nains ne peuvent plus te ramener à la vie. » Et quand, une fois chez elle, elle interrogea le miroir « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit enfin « Majesté, vous êtes la plus belle du pays. » Son cœur envieux fut alors en paix, autant qu'un cœur envieux puisse l'être. Les petits nains, en rentrant chez eux le soir, trouvèrent Blanche-Neige gisant sur le sol. Il ne s'échappait plus le moindre souffle de sa bouche. Elle était morte. Ils la relevèrent et cherchèrent en espérant trouver quelque chose d'empoisonné. Ils défirent le lacet, lui peignèrent les cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais tout cela ne servit à rien. La chère enfant était morte, et elle le resta. Ils l'allongèrent sur une bière, à côté de laquelle ils s'assirent tous les sept pour la pleurer, et ils la pleurèrent ainsi pendant 3 jours. Ils voulurent alors l'enterrer. Mais elle avait encore l'air aussi fraîche qu'une personne vivante, et elle avait encore ses belles joues rouges. « Nous ne pouvons pas ensevelir cela sous la terre noire, » dirent-ils. Et ils firent fabriquer un cercueil de verre transparent, de façon à ce qu'on puisse la voir de tous les côtés. Ils y allongèrent et écrivirent en lettres d'or son nom sur le cercueil, et aussi que c'était une fille de roi. Puis ils exposèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'entre eux restait toujours près de lui pour le garder. Les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. Tout d'abord une chouette, puis un corbeau, et enfin une petite colombe. Blanche-Neige resta longtemps, longtemps allongée dans le cercueil, mais elle ne pourrissait pas. Bien au contraire, elle semblait n'être qu'endormie, car elle était toujours aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et ses cheveux étaient toujours aussi noirs que le bois d'ébène. Le hasard fit cependant qu'un fils de roi se retrouva dans la forêt et qu'il arriva à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil qui se trouvait sur la montagne et la belle Blanche-Neige qui était allongée à l'intérieur. Il lut ce qui était inscrit en lettres d'or. « Laissez-moi ce cercueil, je vous donnerai en échange tout ce que vous voudrez, » dit-il aux nains. « Nous ne le donnerons pas pour tout l'or du monde, » lui répondirent cependant les nains. « Alors offrez-le-moi, » leur dit-il, « car il m'est impossible de vivre sans voir Blanche-Neige. Je l'honorerai et la respecterai comme ce que j'ai de plus précieux. » Quand ils l'entendirent parler ainsi, les bons nains eurent pitié de lui, et ils lui donnèrent le cercueil. Le fils du roi ordonna alors à ses serviteurs d'emporter le cercueil sur leurs épaules. Le hasard fit alors qu'ils trébuchèrent sur une branche, et suite à cette secousse, le morceau de pomme empoisonnée que Blanche-Neige avait croqué sortit de sa gorge. Et peu après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se redressa. Elle était de nouveau bien vivante. « Mon Dieu, où suis-je ? » s'écria-t-elle. « Tu es près de moi, » répondit le fils de roi, au comble de la joie, et il lui raconta ce qui s'était passé. « Je t'aime plus que tout au monde, » lui dit-il. « Viens avec moi au château de mon père, tu seras mon épouse. » Blanche-Neige fut alors bien disposée à son égard, et elle le suivit, et on célébra leur mariage dans la splendeur et la magnificence. Cependant, la marâtre impie de Blanche-Neige fut aussi invitée à la fête. Lorsqu'elle se fut parée de beaux habits, elle se plaça devant le miroir et lui dit « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais la jeune reine est mille fois plus belle que vous. » Cette femme perfide poussa alors un juron et se mit à avoir terriblement peur, si peur qu'elle ne parvenait pas à se ressaisir. Elle ne voulut tout d'abord plus du tout se rendre au mariage. Cependant, elle n'avait pas de paix, elle devait y aller pour voir la jeune reine. Et quand elle entra, elle reconnut Blanche-Neige, et sa terreur et son angoisse étaient telles qu'elle était incapable de faire le moindre mouvement. Mais on avait déjà mis à chauffer, au-dessus d'un feu de charbon, des souliers de fer qu'on lui apporta avec des pinces et que l'on plaça devant elle. Elle fut alors bien obligée de mettre ses souliers chauffés à blanc et de danser ainsi, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, morte, sur le sol.
Docteur Dominique Desmichel, nous avons laissé Blanche-Neige en compagnie des sept nains, mais voilà, le bonheur ne pouvait pas durer, et bientôt, la belle-mère rapplique.
Voilà, exactement. On peut penser que dans la période autour de 7 ans, peut-être une histoire de rivalité oedipienne, diraient les Freudiens, entre 5 et 7 ans, la belle-mère est jalouse de Blanche-Neige parce que le roi est toujours avec sa fille, et puis la fille avec le roi, donc elle a envie de la tuer. Puis dans cette période de latence qui va durer, on va dire 7 ans pour être dans le symbolique, elle est dans une bonne mère avec les 7 nains. Et puis voilà qu'elle a maintenant 14 ans, que la puberté arrive. Alors,
les nains la mettent en garde.
Les nains la mettent en garde. C'est très important aussi de se rappeler que les nains qui sont donc du côté, à mon avis, de la bonne mère, disent le conflit. C'est-à-dire, on peut penser que Blanche-Neige, dans la réalité de la vie, elle pourra avoir une bonne mère et avoir une mauvaise mère. Donc de temps en temps, elle a une bonne mère qui est représentée par la maison des nains accueillante. Et puis de temps en temps, elle a une mère qui ne supporte pas qu'elle devienne super mimi et puis qu'il y ait tous les adolescents de la rue qui soient toujours là devant la porte de la maison ou à sonner à la porte. On ne pourrait pas inviter Blanche-Neige pour aller à la piscine samedi prochain. Et la mère, elle ne supporte pas parce que du coup, elle n'existe plus. Donc elle revient, et elle revient avec des objets.
Voilà. Hein? Alors, trois objets, on retrouve encore la symbolique du chiffre 3, le lacet, le peigne et la pomme. Alors les lacets.
Alors le lacet, c'est quoi ? Le lacet, c'est le lacet du corset à cette époque-là, c'est-à-dire c'est fait avant tout pour une seule chose, c'est mettre en valeur la poitrine. C'est-à-dire il s'agirait en quelque sorte de transformer la beauté archétypique de Blanche-Neige, celle dont on a parlé. Hein? Blanche-Neige, elle est très très belle, immaculée, dans une sorte de perfection, il s'agit de le faire quitter ce statut pour qu'elle devienne un objet désirable, c'est-à-dire un objet sexuel. Et on sent bien qu'à ce moment-là, si dans c'est cette jeune fille qui, pour l'histoire, à 14 ans, travaillée par son adolescence, si elle s'identifie à ce personnage d'objet sexuel, c'est foutu. Elle succombe au discours sexué, on pourrait dire presque génital, mais surtout objectal, c'est-à-dire qui transforme Blanche-Neige en un objet de séduction, ça c'est l'histoire de la mère, elle meurt. Tant mieux qu'elle meure, hein, c'est-à-dire elle perd ce statut-là. Elle s'est laissée fasciner par le statut d'objet sexuel et elle en meurt. Puis ensuite, il y a donc
le peigne. On arrive au peigne.
Voilà. Alors le peigne, c'est la même chose. Je vais reprendre après une toute petite lecture différente, mais le peigne, c'est aussi pour la séduction. Hein, le peigne, évidemment, c'est pour coiffer les longs cheveux qu'on imagine magnifiques de Blanche-Neige. Et elle se laisse aussi fasciner, elle met en valeur sa coiffure, donc elle devient aussi un objet désirable. Et là aussi, c'est foutu. À chaque fois, la reine pense qu'en ayant transformé Blanche-Neige en objet sexuel, elle va s'en débarrasser avec le lacet, qu'elle va aussi s'en débarrasser avec le peigne, mais évidemment, ça ne marche pas. Et on voit à cette deuxième étape que la reine vit quelque chose d'absolument terrifiant puisqu'elle dit « Elle mourra, devrais-je le payer de ma vie ?» Donc on voit l'enjeu de la violence terrible chez la mère puisqu'elle préférait au fond mourir plutôt que laisser Blanche-Neige vivre sa vie d'adolescente. Hein, voilà.
Alors la pomme arrive.
Voilà,
alors la pomme, on comprend tout le symbole de la pomme biblique en tout cas.
Oui, je vous rappelle que dans la Genèse, il n'y a pas de pomme, hein, c'est un fruit, hein, c'est un fruit, on en a fait une pomme après.
Ouais, ouais.
Voilà, on pourrait revenir sur le mot hébreu de pomme, mais je crois que c'est pas le lieu aujourd'hui.
Il y a la pomme de la discorde, il y a la pomme, voilà, il y a plein de choses dans la pomme.
Oui, hein. Tout à fait. Et dans cette pomme, on retrouve aussi encore cette ambivalence des couleurs, puisque d'un côté, il y a le blanc de la blanche neige et il y a le rouge de la passion. Hein. Et donc là, la reine va manger la blancheur de Blanche-Neige. Hein. Donc c'est là encore, on retrouve cette dimension cannibalique, cette dimension de la mère qui dévore sa fille. Donc elle mange la moitié blanche non empoisonnée de la pomme et elle donne à Blanche-Neige le côté rouge, c'est-à-dire le côté de la passion, le côté des sentiments, mais dans quelque chose qui n'est pas maîtrisé.
Et ce qui devait arriver arrive finalement, c'est-à-dire que Blanche-Neige finit en effet par mourir.
Par mourir, voilà. Elle n'a pas intégré la loi de la bonne mère. En l'occurrence, elle n'a pas intégré la loi des nains qui lui disent « Méfie-toi, ta mère a des bons côtés ». Et ta mère a des mauvais côtés. Hein, on va retrouver ça dans tous les contes, à chaque fois qu'il y a une marâtre. On pourrait dire, dans une certaine mesure, il n'y a pas de père. En tout cas, il n'y a pas de père qui lui dit « Écoute, ta mère, tu sais, de temps en temps, elle est un peu pénible. Voilà, bon, tu sais, elle a pris quelques petits kilos. Puis tu sais, avant, elle courait super vite quand elle faisait son jogging. Là, elle s'est fait l'entorse de cheville, elle ne peut plus courir. Voilà, sous-entendu, ma fille, comprends que ta mère a une petite problématique narcissique. J'essaye de la décider d'aller voir le psy, mais survie, t'inquiète pas, je suis là.
Ça va passer.
Ça va passer, je te défendrai. » Là, il n'y a pas de père. On pourrait dire aussi que Blanche-Neige, elle est encore dans l'enfance. Elle est naïve, elle est innocente, elle est virginale. Elle n'a pas encore grandi. Normal, là aussi, elle ne peut pas intérioriser d'images de parents qui sont matures. Elle a une mère complètement immature et elle a un père complètement absent. Je crois qu'à ce moment-là, on peut d'ailleurs reprendre les trois objets. C'est un tout petit peu plus technique et un petit peu psy. J'espère que les auditeurs vont suivre. À partir des trois objets. En quelque sorte, Blanche-Neige, dans ces trois moments qui sont des moments de mort puis de renaissance, hein, puisqu'à chaque fois, elle est restaurée dans sa condition de vivante par les nains, les deux premières fois, par les nains, c'est-à-dire par la bonne mère archaïque, elle vit une sorte de régression. Elle vit une régression dans le lacet, dans le lacet du corset qui renverrait à une génitalité, première régression. Dans le deuxième, avec le peigne qui serait du côté de la maîtrise qui renverrait à une régression autour de l'analité. Et le troisième, dans une régression encore plus archaïque qui est celle de l'oralité. C'est un petit peu technique, mais il me semble que c'est important. Vous savez, on passe d'abord, quand on est petit, par le stade oral où on apprend tout en mettant tout à la bouche, c'est-à-dire en intériorisant, c'est-à-dire dans un cannibalisme symbolique qui se dit « pour connaître, J'ingère symboliquement, ouais. Et puis je mets à la bouche aussi parce que c'est mon mode de connaissance. Ensuite, il y a la question de l'analité qui est la question de la maîtrise, c'est-à-dire d'abord je fais caca dans mon pot et j'apporte ça à mes parents en leur disant « regardez comment je maîtrise ». Ici, on est donc dans l'idée du peigne. Et puis ensuite, l'idée de la dimension sexuelle, en particulier à la période œdipienne, donc un petit peu plus tard, entre 5 et 7 ans, on va dire. Donc là, ici, Blanche-Neige, elle revit une régression à l'envers avec la génitalité, l'analité et puis l'oralité. Oralité, comme dans Hansel et Gretel, par exemple.
C'est alors que les sept nains vont la mettre dans un cercueil de verre.
Voilà.
Très symbolique également.
Tout à fait, tout à fait. Et cet amour inconditionnel des nains pour Blanche-Neige est tout à fait fondamental. Malgré son immaturité, malgré que par trois fois, elle est incapable d'écouter les conseils des nains, il l'aime. Donc je crois que Blanche-Neige, à ce moment-là, elle est vraiment, vraiment le huitième nain. Et puis, il y a ce cercueil de verre, c'est-à-dire dans quelque chose où le temps a l'air d'être suspendu, où elle est en quelque sorte morte sans être morte. Et à ce moment-là, il y a l'autre qui arrive.
Et alors là, on a une scène tout à fait étonnante où le prince veut acheter en tout cas le cercueil et puis Blanche-Neige.
Voilà, c'est le prince. Lui, il la voit et il a le coup de foudre, c'est-à-dire il enracine son lien dans une passion. Mais c'est une figure de l'autre, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une figure parentale, c'est une figure il a le même âge, on pourrait dire.
Alter ego, hein.
Voilà, il a le même âge que Blanche-Neige. Et il l'aime même dans cette sorte de temps suspendu, de cette mortalité qui n'en est pas une. Et comme vous dites, il veut d'abord l'acheter, et évidemment on n'achète pas quelqu'un, sauf si c'est un objet, on n'achète qu'un objet. Donc les nains refusent. Et alors il a cette parole qui change tout. Il dit « Donnez-la-moi ». Et c'est quoi ? Ben c'est le don de l'amour, c'est-à-dire « Vous me la donnez, on ne va pas s'occuper de que je vous donne de l'or à la place ». C'est le don, il a compris que l'amour ne s'achète pas, mais il donne tout à fait l'essentiel en même temps, c'est-à-dire le respect, il va la respecter, et il va lui donner de l'honneur en même temps. C'est donc pour ça que c'est à dos d'homme qu'elle est transportée, c'est-à-dire on va sentir le poids de son humanité, le poids probablement de sa détresse. Et puis la deuxième rupture, on a vu qu'il y avait une première déchirure au tout début avec la reine qui se pique, dans quelque chose qui se joue entre elle et elle, tandis que là on est dans une autre déchirure, une autre rupture qui se joue entre deux personnages qui sont séparés. C'est-à-dire l'homme, le prince qui porte, voilà, il tombe, peut-être il tombe amoureux en même temps, mais ils tombent tous les deux tombent. Et dès que ce cortège figé se rompt, il y a une rupture, le maléfice est rompu et on passe du maléfice au bénéfice.
Ah, c'est marrant, il n'y a pas de baiser du tout, comme on a pu le voir. Aujourd'hui, les contes sont symboles du baiser du prince qui réveille la princesse. Là, absolument pas. C'est venu après, dans les fameuses évolutions des contes dont on parlait.
Voilà, mais on imagine bien que sur le plan symbolique, on ne peut pas embrasser quelqu'un ou qui dort ou qui est mort, parce qu'on embrasse un objet. Pour qu'il y ait un vrai baiser, il faut que l'un embrasse l'autre, mais que l'autre embrasse l'un. Donc vous voyez, c'est sur le plan symbolique et sur le plan affectif, c'est une erreur de penser que, alors que Blanche-Neige est morte, le prince l'embrasse. Non, il faut qu'il ait l'autorisation de Blanche-Neige pour l'embrasser. Hein. On est dans un vrai respect d'altérité. Ouais. Hein, voilà. Si l'un dit oui, si l'un demande, l'autre dit oui, mais l'autre peut dire non ici. Hein. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est toute la fin du conte. Pendant très très longtemps, quand je parlais un petit peu de ce conte, j'avais une vision un petit peu inquiète et pessimiste en disant bon, c'est un peu problématique parce que Blanche-Neige, d'accord, elle a rencontré son prince, et puis elle va grandir, elle va avoir une fille, c'est-à-dire elle va se piquer peut-être aussi, un jour il y aura de la neige, et puis voilà. Puis le prince, bon, d'accord, il l'a sauvée de là, mais il a des couilles ou il n'a pas des couilles, lui, hein ? On n'est pas très très sûr qu'il en ait, qu'il puisse vraiment vraiment exister. Et je disais, moi je pense que si vous connaissez des Blanche-Neige, envoyez-les donc faire un petit tour chez le psy, ça lui fera peut-être du bien pour résoudre la problématique avec sa mère. Mais la conclusion du conte est fondamentale. Le prince, il emmène sa princesse non pas au pays des mères abusives et jalouses, mais dans le château du père. Si le prince avait amené Blanche-Neige chez sa mère pour des noces, il y aurait eu lieu de s'inquiéter. Ouais. Et j'aurais donc volontiers proposé à Blanche-Neige quelques séances sur le divan. À défaut, donc, comme je le dis, elle aurait risqué de se piquer et tout aurait recommencé. Ici, tout change. Le père existe. Il est là pour tenir le couple. Il est là pour exister auprès de sa compagne, lui permettant à son tour d'être pleinement femme, sans risque pour l'enfant. C'est pour ça qu'on comprend bien que, à la fin, le supplice de la méchante reine n'a d'autre logique pour elle, il me semble, que d'aller voir au mariage de sa victime de prédilection. C'est une volonté morbide, voire perverse, qui ne peut être que châtiée par la mort. Et on retrouve donc à la fin les trois couleurs qui sont des couleurs terrifiantes, du rouge, du blanc et du noir. Ici, le feu dévorant, non pas le feu de l'amour, mais le feu du supplice. Dans une ultime, c'est chauffé à blanc. Voilà. Donc c'est vraiment l'amour dans son excès total qui brûle et qui consume. Et ça renvoie au noir de la mort. Donc vous voyez combien la fin de ce rêve, que je n'avais pas du tout lu, voilà, c'est vraiment avec cette émission, je relus le conte et je me suis dit, mais oui, tout change. Le prince, il va emmener sa princesse dans un lieu où on peut imaginer qu'il y a bien évidemment une reine, hein, puisqu'il existe, lui, il a été conçu, mais il l'emmène chez son père. C'est-à-dire dans un lieu où il y a la loi du père qui va dire qu'il existe auprès de la reine. Et donc, la reine, elle vit parce que son homme, il l'aime. Et il lui dit, t'es belle, t'as des rites, et alors on s'en fout, viens, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, hein? Voilà. Et grâce à ça, on peut penser que le couple de Blanche-Neige et de son prince vont peut-être avoir...
Couler
des jours heureux.
I saw the light fade from the sky. On the wind I held a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye.
Règlement de compte, c'est fini pour aujourd'hui. Ainsi se termine cette histoire de Blanche-Neige. Un grand merci à Emily Glory et au docteur Dominique Desmichel. Nous nous retrouvons très prochainement pour continuer notre exploration du monde obscur des contes populaires. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. Came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road. Now for me, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea.